Merde!
Bienvenue sur Coup de Feu, le podcast qui donne la voix aux restaurateurs. Dans ce podcast, je fais raconter à tous ceux qui travaillent en restauration leurs expériences les plus loufoques. Je m'appelle Ombline Choupin et j'ai moi-même tenu un restaurant-bar à Paris dans le Marais pendant 3 ans. Cet épisode a été créé en partenariat avec ZenChef, solution de réservation pour les restaurateurs sans commission ni intermédiaire. La fermeture administrative, cette terreur des tenanciers de bar. Comme le dit Blanche Gardin dans son spectacle « Je parle toute seule », Paris n'est plus une fête depuis très longtemps. À 2h du matin, tous les bars sont fermés. Dans le centre, les habitants mettent des banderoles aux fenêtres. « Haltebrie, nous aimons nos nuits !» Paris est un dortoir à bobos insomniaques qui pissent trop de thé vers la nuit. Les forces de l'ordre, en effet, soutenues par les habitants, supportent de moins en moins le tapage. Rien qu'à Paris, le nombre de fermetures a augmenté 17% entre 2016 et 2017, touchant 210 bars pendant l'année. À noter que 5% de ces fermetures ont été prononcées pour cause de vente à emporter. La fermeture administrative, Romain, propriétaire du syndicat Cocktail Club et du bar La Commune à Paris, l'a vécu. Et pas qu'une. Aujourd'hui, il nous raconte ses galères avec les forces de l'ordre.
Alors, donc moi, je m'appelle Romain Lemolic, j'ai 33 ans et j'ai fondé donc le syndicat des alcools français qui a pour vocation de défendre les producteurs français et leurs alcools pour les faire mieux connaître au public et surtout les faire connaître sous une forme moderne et pas la forme un peu ringarde et traditionnelle qu'on connaît habituellement. Voilà. Donc moi, je suis là aujourd'hui pour vous parler des relations de bar avec la police. Parce que donc moi, en fait, je venais donc d'un milieu assez tranquille. C'était le 16e arrondissement de Paris, là où je travaillais pendant mes 5 premières années professionnelles, après ma sortie d'école. Donc, bah, quand j'ai décidé de monter ma boîte, je me suis dit, comme tous les gens qui montent leur entreprise, va y avoir des problématiques financières, va y avoir des problématiques de recrutement, va y avoir des problématiques légales. Ce que j'avais pas prévu, c'était les problèmes avec la police. Mais très rapidement, j'y ai été confronté. Première anecdote, c'était 2 jours après notre ouverture. Il faut voir que notre bar ressemble un peu à un squat de l'extérieur. C'est fait un peu d'affiche. Enfin, il y a un petit côté berlinois qui ressort. Et je pense que la police n'avait pas compris cette esthétique et a pensé qu'on était vraiment un squat de drogués, de dealers, enfin, de mafieux. Et donc, au bout de 2 jours, à 2h du matin, en rangeant mon établissement, me fait plaquer dans ma cave au cri de police, police, par 2 agents de bulldog qui me font une clé de bras face contre terre et me commencent à me fouiller les poches, cherchant, j'imagine, de la drogue, de la cocaïne ou j'en sais rien. Donc là, j'ai bien pris conscience que, en fait, je faisais pas n'importe quel métier. J'étais vraiment dans le métier du quotidien, du petit commerçant qui est au contact de la rue et donc qui vit les mêmes problématiques que les gens qui y vivent. Donc ça, c'est la première confrontation que j'ai eue avec la brigade du quartier. Et je pensais que ce serait la seule, puisque je leur ai quand même expliqué, ils ont bien vu que j'étais le propriétaire de l'établissement. Mais il se trouve qu'en fait, dans la police, vous avez énormément de brigades différentes. Vous avez la brigade des stupes, vous avez la BAC, vous avez la brigade des licences 4, vous avez la brigade d'arrondissement. Et en fait, ces gens ne se connaissent pas, ne communiquent pas. La deuxième relation et confrontation que j'ai eue avec eux, c'était 2 ou 3 semaines après notre ouverture. Énormément de monde, bien sûr, puisque comme toute ouverture de bar, on fait venir les copains, il y a une très bonne ambiance. Et là, la brigade d'arrondissement débarque dans l'établissement et commence à nous demander de faire moins de bruit. Et là, moi, évidemment, je commençais à avoir conscience qu'il fallait que ça se passe bien. Donc j'essayais d'amadouer en disant « oui, on est vraiment désolé, on va faire très attention ». Malheureusement, mon associé de l'époque a été un peu éméché et a eu le malheur de se rapprocher du commandant en lui disant « Vous n'avez pas autre chose à faire, on est tranquille, qu'est-ce que vous foutez là? Partez !» Alors, une chose qu'il ne faut jamais dire à un commandant de commissariat de police, c'est de partir. C'est la dernière chose à faire, au contraire. Vraiment, j'ai un conseil que je donne, parce que là, c'était parti pour 3 ou 4 ans de galère. C'est rester calme, dites oui à tout ce qu'on vous dit et surtout ne polémiquez pas. J'ai essayé de rattraper la situation. Malheureusement, j'ai eu une convocation le lendemain au commissariat avec outrage à agent. Je tiens à dire tout de suite que j'ai été élevé dans le respect des forces de l'ordre, que j'imagine que de façon générale tout se passe très bien, mais malheureusement là j'ai eu quand même des cas très difficiles à traiter très rapidement. Donc là, j'avais à peu près 3 semaines, 1 mois d'ouverture maximum. Et c'est vrai que, en dehors de tous les soucis, c'est quand même des soucis. Être convoqué au commissariat comme un malfrat, c'est quand même pas très agréable à vivre, surtout quand on a plein de choses à faire, qu'on a beaucoup de soucis à côté. Mais encore, là, tout se passait bien. Les vrais problèmes ont commencé à se poser quand mes voisins ont commencé à alerter la police tous les soirs pour des nuisances sonores. Alors, il faut savoir qu'on est situé dans un quartier extrêmement agité, avec des très gros bars à bière qui nous entourent, et que nous, on est un petit établissement de cocktail, plutôt sage par rapport à nos voisins. Néanmoins, nos voisins du dessus ne l'entendaient pas de cette oreille, et ont décidé, de, par tous les moyens, d'essayer de nous faire fermer. Alors, pour faire fermer un établissement, c'est pas très compliqué. Vous appelez la police, vous lui demandez de venir tous les soirs jusqu'à ce qu'elle trouve des choses pour vous verbaliser. Le bouquin de règles à respecter dans les établissements et les débits de boissons doit faire à peu près 1000 pages. Donc si vous voulez trouver quelque chose qui ne va pas, vous finirez par trouver. Nous, donc les commissariats de police et donc la brigade est passée en un an 14 fois et nous a dressé 56 amendes pour des choses aussi farfelues que présence de plantes végétales sur le bar, paille en plastique non emballée dans un support papier, ou encore absence de savon dans les toilettes. Donc ces 56 amendes ont bien sûr révélé une mauvaise gestion du propriétaire et du gérant, à savoir moi-même, et donc a servi de justification pour entamer les choses sérieuses, c'est-à-dire la procédure de fermeture de l'établissement. Alors là, ça devient très grave, parce que en gros, qu'est-ce qui se passe quand on essaie de faire fermer un établissement? On pourrait se dire, bon, bah, on est basé sur du droit, donc les choses vont pouvoir se régler devant un juge. Eh ben non. Le droit français est ainsi fait que la préfecture de police, donc la police, peut fermer administrativement votre établissement pour une durée allant de 2 semaines à 6 mois, simplement sur des verbalisations d'agents. Donc, sans aucune mesure de nuisance sonore réelle, sans aucun sonomètre. Simplement, le policier arrive, estime qu'il y a trop de bruit, vous verbalise. 15 jours après, la proposition de fermeture tombe. Et là, vous pouvez être fermé. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc une fermeture administrative, ça veut dire que vous fermez votre établissement, donc aucun chiffre d'affaires ne rentre. Néanmoins, vous continuez à payer les salaires, vous payez le loyer, vous payez la dette, enfin, vous payez tout. Donc très rapidement, vous pouvez perdre 40, 50, 60, 100 000 euros. Et ça, vous avez absolument, malheureusement, aucun pouvoir pour suspendre les choses, puisque la procédure de référé en justice, donc le fait de pouvoir suspendre la procédure de fermeture administrative, ne peut être réalisé que si vous êtes en difficulté financière. Si vous n'êtes pas en difficulté, bah, vous êtes parti pour un procès de 2 ans, très aléatoire. Peut-être que vous gagnerez, mais enfin, vous aurez perdu tellement d'argent pendant les 2 ou 3 semaines où vous aurez fermé, qu'à la limite, c'est secondaire. Donc là, je me suis retrouvé à lutter donc, contre ces fermetures administratives. On a prononcé 4 contre moi en 18 mois. Alors là, quelle est la méthode à suivre? La méthode, c'est très simple. Il faut agiter tout ce que vous pouvez. Donc moi, j'ai essayé de voir qui je pouvais contacter. J'ai contacté le député, le président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, le président de la République. Et finalement, ça a payé, puisque j'ai eu la chance d'avoir la députée qui s'est déplacée jusque dans mon bar. J'ai eu un rendez-vous avec la maire d'arrondissement. J'ai eu un rendez-vous avec le numéro 2 de la préfecture de police de Paris. Et grâce à ça, 2 dernières fermetures administratives ont été annulées, puisque manifestement, on ne pouvait pas me reprocher grand-chose. Donc là, la procédure est en cours. J'ai lancé un procès contre la préfecture de police pour harcèlement. Et on espère que ça va bien se terminer. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant des évolutions de l'affaire.
Malgré ces aventures, le syndicat a obtenu en octobre dernier la 24e place du classement The World's 50 Best Bars en tant que premier bar à cocktail de France. Merci d'avoir écouté Coup de Feu, le podcast qui donne la voix aux restaurateurs. Merci à notre partenaire ZenChef, solution de réservation sans commission qui garantit l'indépendance des restaurateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zenchef.fr. Si vous aimez Coup de Feu, partagez avec vos collègues, abonnez-vous et mettez-nous une super note.